Le 4 novembre, à Saint-Affrique, le collectif du Petit Travers est venu nous proposer une représentation du spectacle Nuit. J'en ai profité pour balader le micro et en savoir plus sur cette compagnie qui a été accueillie en résidence il y a des années de cela par Polisson pour la création de ce spectacle. Et nous avons pu y assister le vendredi 4 au soir et ce fut mémorable. Rencontre avec les différents acteurs du collectif, histoire de voir ce qu'il se passe derrière les coulisses. Commençons avec une petite présentation avec David Michelis, directeur de production.
Alors, pour parler du collectif Petit Travers, le collectif, c'est une compagnie qui a environ 12 ans, qui a été créée en 2004 juridiquement, mais qui existait déjà avant. L'histoire, c'est Nicolas Matisse et Denis Fargeton, qui sont deux artistes jongleurs et musiciens, qui ont créé un premier spectacle qui s'appelait Le Petit Travers en 2002. C'est un spectacle qui a énormément tourné en France et dans le monde entier. Et de là, ils ont voulu poursuivre leur recherche artistique ensemble, notamment autour du jonglage et des liens qu'entretient le jonglage avec la musique. Et ils ont créé une compagnie pour ça qui s'appelle le collectif Petit Travers. Collectif parce qu'il y a plusieurs auteurs, en tout cas il y a un collectif de pensée, il y a plusieurs personnes qui se mettent autour de la table pour imaginer les projets, les développer, les faire advenir et les travailler ensemble. Donc c'est ça la notion de collectif aujourd'hui chez nous. Et aujourd'hui on est implanté en région Rhône-Alpes, on est implanté à Villeurbanne en banlieue de Lyon. Voilà. Nuit dans cette histoire-là, c'est un projet qui est né en 2015, de l'envie de Nicolas notamment et de Julien, qui sont aujourd'hui les deux co-directeurs artistiques du collectif, d'écrire une petite forme, quelque chose de rapide, de léger, qui traverse le monde de la nuit et les questions que la nuit pose au niveau de la magie, de l'imaginaire. Donc il y a tout un travail sur le son notamment, à travers une composition à partir de quatuor à cordes qui est très bruitiste, très imagé, qui raconte vraiment un univers de la nuit ou des choses nocturnes, des petits animaux, des bêtes, etc. Et puis il y a tout un travail sur la magie, notamment avec une balle qui vit toute seule, que le spectateur voit vivre toute seule sur scène, une balle douée de volonté propre, qui va un petit peu s'emparer du plateau et contre laquelle les protagonistes du spectacle, les trois personnages vont se battre ou jouer avec. Voilà, c'est par l'intermédiaire du jonglage. Les résidences, et comment ça a vu le jour? Alors, Nuit, ça a vu le jour, en tout cas, pour ce qui concerne particulièrement la partie avec Polisson, par un partenariat que j'ai initié avec Circa, qui est un pôle national des arts du cirque à Auch, dans le Gers, et la grainerie fabrique de l'itinérance à Toulouse. Et Polisson, du coup, on a monté un dossier avec ces trois structures pour pouvoir avoir des financements qui nous permettent non seulement de venir en résidence travailler pendant plusieurs semaines dans ces lieux, avec de la recherche et puis les besoins d'écriture au plateau qu'on avait, et ensuite de pouvoir revenir avec de la diffusion. Donc on est très content de venir jouer Nuit à Polisson 2 ans après avoir créé le projet. Voilà.
Et également, par rapport à cette balle qui est doué de volonté propre. Il y a eu tout un travail de recherche également fait en robotique pour amener cette chose-là. Alors du coup, comment ça s'est fait, ce travail de recherche?
Alors à la base, l'histoire de Nuit, c'est aussi le directeur d'une entreprise d'informatique de pointe implantée à Toulouse qui s'appelle Equito, qui vient voir Nicolas Matisse, qui est un des auteurs du projet, et qui lui dit, écoute, voilà, nous, on fait ce qui s'appelle de la mise à disposition de compétences, on met nos ingénieurs au service d'un projet artistique, ça amène aux ingénieurs de nouvelles compétences, ça nous permet de développer des technologies qui n'existent pas jusqu'à présent, et ça rentre dans le champ du mécénat, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut valoriser comme une action sociale, une action qui aide des gens, en particulier des artistes. Donc, le monsieur s'appelle Benjamin, donc Benjamin nous a proposé ce partenariat en disant, moi, si vous avez un projet, j'ai des choses à vous proposer pour votre prochain projet de jonglage, parce que j'ai découvert un jouet qui s'appelle Sphero, qui est développé aux États-Unis, qui est une balle pilotée par iPhone ou par télécommande, et je vous propose de la hacker, de la détourner. Lui, il appelle ça disrupter les technologies, c'est-à-dire les détourner pour les amener à être plus performantes et plus puissantes. C'est ce qu'ils ont tenté de faire avec Sphero pendant longtemps pour nous, en développant vraiment un principe de pilotage qui nous permette de faire des effets qu'on n'imaginerait pas du tout dans une balle. Voilà. Le projet n'a pas abouti au niveau de la recherche, puisque au bout d'un moment, on s'est heurté à des freins technologiques qui nécessitaient beaucoup d'argent pour le développement. Par contre, il nous a permis de nous poser la question de comment écrire avec une technologie, alors que nous, on fait du jonglage, c'est-à-dire une écriture de cirque, très basique, avec des objets qu'on envoie en l'air et qu'on rattrape. Comment on imagine un objet qui, lui, ne suit pas ces trajectoires-là, qui plutôt a sa volonté propre. Et donc, même si le projet n'a pas abouti du point de vue technologique et de développement de l'outil, on utilise quand même le jouet et la technologie Sphéro dans le spectacle, avec quand même un travail de développement de Equito, la société d'informatique, qui nous a permis voilà, d'imaginer notamment la trame et l'histoire de ce projet où la balle douée de volonté propre envahit le plateau. Voilà.
Le travail qui a été fait en résidence, que ce soit à la Grenierie, à la Circa et à Polisson, en fait, c'était des travaux qui étaient différents. C'est-à-dire que certaines, tu as mis en relation en fait, ces structures pour développer le spectacle nuit. Par rapport à la forme, par rapport aux moyens techniques dont disposaient ces structures-là,
Oui, complètement. Alors, par exemple, dans l'ordre, on a fait la Grenierie, ensuite Circa, ensuite Polisson. Si je ne me trompe pas, c'est ça. À Polisson, les interprètes sont venus travailler sur le corps, sur eux des figures de jonglage, de l'écriture de jonglage pure et dure, sans lumière, sans décor, sans technique, avec juste de la musique, vraiment pour prendre le temps d'expérimenter vraiment ce qu'ils allaient mettre en jeu sur le plateau en termes de performance artistique, vraiment le cirque dans tout ce qu'il a de plus pur. Ensuite, à la Grenierie, on a plutôt travaillé justement avec l'entreprise informatique puisqu'on était à Toulouse. Donc la Grenierie a servi de résidence avec des ingénieurs et les artistes autour de comment on peut imaginer cette balle et la faire fonctionner. Puis Circa, c'était beaucoup plus tard et là, on a peaufiné la création lumière avec le décor tout complet dans une salle noire, une boîte noire de théâtre. Et le spectacle avait déjà bien avancé, il était déjà très écrit à partir notamment de fondements de matière qu'ils ont créés ici à Sainte-Afrique.
Alors pour en savoir plus, je suis allé rencontrer deux artistes de la compagnie, Nico et Julien, qui nous parlent de la création même du spectacle.
C'est la création sur laquelle on a travaillé le moins longtemps. En revanche, on l'avait comme bien cadré au départ, et du coup on avait envie d'un esprit de la magie, c'était comme le thème principal, et au niveau de la perception et au niveau d'un travail qui nous intéressait de développer, c'était un travail sur la pénombre, qui vient de nos goûts, d'autres pièces, d'autres gens, mais qui vient aussi de travail précédent, notamment Panpot, où on utilisait beaucoup le noir, ou la mise au noir, les temps d'allumage, pour de la dramaturgie. Là, on voulait en faire un des cœurs de l'action, et du coup, on a travaillé avec la bougie, notamment pour ça, et aussi pour avoir... Au niveau technique, il y a beaucoup de choses, mais c'est assez léger. Il n'y a que 6 circuits, par exemple, pour tout le spectacle. Du coup, il y a des reprises de la lumière des bougies qui se fait par des projecteurs, mais c'est vraiment pour souligner, pour qu'on voit mieux les silhouettes et les balles. La mise en place, elle s'est faite en plusieurs étapes. En fait, au début, on a cherché un peu, on a fait des prototypes de scéno. On a défini aussi un répertoire de musique. Il n'y a que du quatuor à cordes, ça unifie aussi un petit peu l'esthétique. Et du coup, après une phase de laboratoire, on a commencé à construire des séquences, surtout le début, à orienter des solos avec des caractéristiques très différentes de personnages, et à définir vers la fin une espèce de trio qui va avec la musique et avec la lumière. Et on a ficelé tout ça sur les derniers jours.
D'accord, également...
Peut-être rajouter au niveau de comment sont les personnages, contrairement à d'autres pièces qu'on fait, où on a un traitement très graphique et rythmique des présences des personnages qui ne sont pas forcément révélés en tant que personne, en tant que personnage justement. Là, c'est comme si on racontait une histoire à chaque fois et que les personnages vivaient des choses et que le spectateur... La relation du personnage au spectateur se fait beaucoup par empathie et par réaction, elle est extrêmement simple, quoi. Voilà, ça c'est une particularité de ce spectacle-là par rapport aux autres qu'on a fait ensemble.
Et si aussi sur l'envie du coup d'un petit dispositif, c'était de pouvoir être assez proche des gens, aussi pour ces questions dont parlait Nicolas de présence des gens, mais pour qu'on puisse sentir ce qui se passe dans, dans la réaction d'une personne ou dans les interactions. Et aussi, on avait vu un spectacle qui nous avait beaucoup plu avec Nicolas à Orléans il y a 3-4 ans, qui s'appelait Atem, et qui était dans un petit dispositif cubique. Et vraiment, ça nous avait plu, ce rapport au public. On avait complètement plongé dans l'atmosphère. C'était un spectacle de Joseph Nadj. Voilà.
Et également, mis à part tout l'aspect technique, je ne sais pas si... on peut en parler à la radio, mais je voulais revenir un petit peu sur Equito et sur le travail que vous avez fait en fait de recherche pour utiliser cette balle qui est un robot, si je ne m'abuse.
Alors à la base de ce spectacle, justement, comme on était parti sur l'esprit de la magie, il y avait aussi le fait qu'une entreprise de développement de logiciels, enfin une entreprise d'informatique sur Toulouse, nous avait proposé de développer pour nous une balle qui se télécommande, qu'on pourrait programmer, télécommander. En gros, ils nous avaient dit qu'on pourrait nous rêver des choses et qu'eux mettraient tout en place pour essayer de réaliser nos rêves un petit peu. Bon, il se trouve que ça a été plus compliqué que ça dans la réalité. On a essayé pas mal de choses qui étaient compliquées, qui auraient été trop lourdes techniquement ou qui n'ont tout simplement pas marché. Et finalement, on utilise presque la balle telle qu'on la trouve dans le commerce, sauf qu'on l'a repeinte en blanc. On utilise seulement cette balle-là comme des balles télécommandées qui intervient vraiment de manière très ponctuelle dans le spectacle pour relancer des choses à certains moments. Mais le développement, en tout cas le travail de développement avec l'entreprise n'a pas donné grand-chose de concret, ni pour le spectacle, ni techniquement.
C'est aussi qu'on avait en fait comme premier besoin et comme première envie, celle que les balles puissent être comme autonomes, mues par une vie propre, mais du coup c'est aussi la charge de surprise qu'il peut y avoir dans les déplacements des objets, et du coup la charge aussi magique ou vivante venait de la capacité à en faire quelque chose de fluide quelque part, avec des ruptures mais qui serait comme décidé de manière animale. On avait plutôt des images de petites souris, de fourmis, de bandes poissons, des images plutôt animales, et en fait la programmation passait toujours par des accents robotiques, justement, qui enlevaient ce côté vivant, ce côté fluide. Du coup, toutes les avancées qu'il y a pu avoir quand même n'avaient pas ce caractère vivant, donc on a vraiment, en fait, on a avancé, puis on a tout enlevé jusqu'à retrouver le truc le plus simple possible.
Et c'est vrai que, en fait, tout votre travail, j'ai l'impression qu'il y a tout un travail sur la notion de déplacement. Pas seulement au niveau des balles, c'est aussi beaucoup vous-même qui vous déplacez durant le spectacle, où il y a des zones d'ombre, des moments où on ne vous voit plus, où on vous voit réapparaître comme par magie à plein de moments. Et pour vous, c'était comment ça vous est venu, en fait, cette idée-là d'image,
D'une manière générale, dans notre travail, on construit les images de manière assez graphique. Par exemple, de se dire qu'il y a deux points, qu'entre ces deux points, on sait qu'on va faire une circulation, entre les portes du fond, les portes du devant, les apparitions qui sont au fond par la petite fenêtre. Enfin, tous les espaces sont un peu hiérarchisés et caractérisés. Dans chaque espace, on a une présence propre et on sait qu'il y a des déplacements, par exemple, parallèles au bord plateau, ou des déplacements vers le fond. Enfin, on utilise des choses extrêmement simples, presque utiliser la scène comme quelque chose de graphique dans lequel on peut faire circuler des corps et que ce soit juste beau, quoi. Donc souvent c'est des choses très claires et très simples, quoi, des déplacements parallèles, des endroits, des choses qui vont d'un point à un autre tout simplement. Ouais, c'est très simple.
Et ça, justement, j'ai l'impression que tu parles du côté visible, et j'entendais aussi dans ta question le côté invisible, c'est-à-dire dans la structure, en fait, nous on peut circuler partout. Ça a été une des choses dans ce spectacle. On peut circuler caché à chaque endroit, et du coup on a un autre spectacle qui n'est pas à vue, qui est aussi chargé que celui qui est à vue, même peut-être un peu plus, parce que les actions sont plus nerveuses. On fait pas attention à cette sobriété qu'on essaie de dégager à partir du moment où on est en commun, en tout cas, au plateau. Et du coup, la partie invisible permet des apparitions. Et ces apparitions, ça allait aussi un peu dans, on pourrait dire, une espèce de thématique autour de cette question de la nuit, d'apparitions fantomatiques, d'avoir l'impression qu'en fait on avait oublié de voir quelque chose. On travaille là-dessus comme essayer d'avoir des impressions en plus de la dimension graphique, j'ai l'impression. On a ces deux choses-là en même temps.
Et il y a aussi la construction simplement picturale des scènes qu'on n'avait pas quand on s'éclaire avec des projecteurs. Là, vraiment, l'éclairage par bougie, ça donne vraiment une dimension d'épaisseur au volume, quelque chose qui peut être très éclairé, très en sous-ombre. Enfin, il y a vraiment un travail avec les bougies, qui est très simple lui aussi. Hein. On a trois sources de lumière avec les bougies, et qui rend cet espace aussi extrêmement vivant et vibrant un peu, quoi.
Et puis il y a les lampes torches aussi, on a ça en plus que les éclairages à la bougie et les projos. Et ça, on a travaillé à les avoir sur nous, à pouvoir faire des fenêtres d'ouverture avec nos habits, à pouvoir faire des focus différents. Du coup, avec assez peu de matériel, on a quand même une possibilité de source lumineuse assez, assez riche. Et justement, de les placer, comme tu disais, en volume, que ce soit en contre, en face, sur les côtés, ça fait tout de suite beaucoup d'épaisseur sur une même image. Donc des fois, il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Et en fait, c'est les lumières qui bougent et on a l'impression que ça bouge, enfin, ce genre de choses.
Ouais, c'est un rapport avec l'espace qui est très intéressant pour mettre en valeur toute la dimension du jonglage. Et dernière question, je voulais savoir éventuellement, qu'est-ce qui vous a plu dans ce spectacle, particulièrement dans tout le travail que vous avez fait ?
Moi, ce qui me plaît, c'est de le jouer. C'est un spectacle qui est très agréable à jouer. On a les réactions du public qui sont directes, qui sont assez nombreuses. Enfin, c'est un spectacle très léger qui fait rire. Et c'est un spectacle assez facile à jouer. Enfin, c'est même assez jouissif de poser son attention sur le fait d'aller chercher des toutes petites réactions en bougeant le moins possible. Enfin, ce spectacle, il permet ça, quoi. Et puis, comme c'est un spectacle aussi où on est plus des personnages que dans d'autres pièces, il y a aussi quelque chose simplement de jouer sur scène. Et il est court, il est très agréable. Donc, en tournée, c'est un spectacle très agréable à jouer.
Ouais, moi, j'aime bien sa facilité aussi en tournée. Il y a quelque chose du plaisir qui est assez immédiat pour nous aussi. Et on se retrouve comme à la maison, vraiment. Donc ce dispositif-là, qui est une espèce de maison, fonctionne aussi pour nous. Et après, toute la fabrication était vachement intéressante aussi, de chercher et tout. Mais c'est comme si cette phase de recherche, au bout d'un moment, elle aboutit à un objet. Et quand on a cet objet, eh ben, c'est difficile pour moi de faire un retour en arrière et de redire telle chose a été particulièrement marquante ou...
Tu travailles avec Yann ? On a travaillé avec un magicien, Yann Frisch. Et c'était chouette, par exemple, de travailler avec lui. Il avait commencé à jongler avec nous sur une des pièces précédentes et puis il n'avait pas pu continuer parce qu'il était trop occupé. Et là, le fait de l'inviter à travailler avec nous, pas au plateau, mais en tant que magicien et qu'on travaille ensemble à des effets de magie tout simples, ça mettait une bonne, quelque chose de très énergique dans le travail. Ça allait vite et c'était joyeux, quoi.
Moi, j'ai bien aimé avoir des portes aussi. On a trouvé ça. On a des portes, mais c'est un sacré terrain de jeu, en fait. Et graphique, et pour pouvoir se cacher aussi. Voilà. Moi, j'aime bien ce spectacle.
Merci à David et tous les artistes du Petit Travers d'avoir pu prendre de leur temps. Espérons qu'ils reviennent nous faire découvrir leur prochaine création, si l'occasion se présente. Si vous avez l'occasion de les voir, n'hésitez pas. Le collectif a produit quantité de spectacles, et pas des moindres. Allez, à bientôt sur nos ondes.